Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François renouvelle par décret l'engagement du Saint-Siège en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et de la prolifération d'armes de destruction massive. Il renforce le pouvoir de l'autorité d'information financière instituée par Benoît XVI. Vous entendrez les explications du directeur du bureau de presse du Saint-Siège dès le début de ce magazine. Vous entendrez également le maître général des Dominicains dans cette émission. Une centaine de délégués élus viennent de participer au chapitre général de l'Ordre. Ils ont pu s'exprimer librement et réfléchir ensemble aux orientations à donner à leur ministère de prêcheurs. Plus de 2 millions de personnes menacées par la famine et 100 000 par une épidémie de choléra en Haïti. Alors que la saison des ouragans vient de commencer sur l'île, les Nations Unies et le gouvernement haïtien ont lancé un appel à la générosité internationale. Pendant les congés, le monde continue de tourner en cette période de crise des dirigeants dont le souverain pontife renonce à leurs vacances. Ainsi, au cœur de l'été, le Vatican a publié ce jeudi à la mi-journée un motu proprio du pape François sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la prolifération d'armes de destruction massive. Cet acte législatif personnel du pape, c'est le sens du terme motu proprio, se situe dans le sillage de l'action entreprise par Benoît XVI par un motu proprio du 30 décembre 2010 pour prévenir et contrecarrer les activités illégales dans le domaine financier et monétaire. Ce nouveau décret élargit l'application de la législation vaticane en la matière aux dicastères de la Curie romaine ainsi qu'aux organismes qui dépendent du Saint-Siège et aux associations à but non lucratif disposant de personnalités juridiques et canoniques et ayant leur siège à l'intérieur de l'État de la Cité du Vatican. Conformément aux recommandations du comité Moneval du Conseil de l'Europe, il institue la fonction de surveillance prudentielle, autrement dit d'évaluation et d'approbation de tous les organismes ayant une activité financière, une fonction attribuée à l'AIF, l'autorité d'information financière. Enfin, il crée le comité de sécurité financière chargé de coordonner les autorités compétentes du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican. En clair, le pape François a voulu renforcer la surveillance des opérations et services financiers du Vatican. Écoutez les explications du père Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège et de Radio Vatican.
Le motu proprio, c'est un autre pas dans ce chemin de perfectionnement du système. Et en particulier, on a donné à la AIF, à l'autorité d'information financière, de nouveaux pouvoirs, de nouvelles compétences qui vont répondre à des exigences formulées par le comité de Moneval il y a quelques temps dans son évaluation du système Vatican. Et on a encore constitué un comité de coordination pour avoir un lieu dans lequel les différents responsables des différentes institutions vaticanes qui ont affaire avec tout ce champ de problèmes du contrôle des activités financières et économiques ont un lieu où se rencontrer pour coordonner leur action et leurs compétences. Le motu proprio, c'est un instrument important car avec cette forme de document, le pape étend la valeur des lois qui en soi sont faites pour l'État de la Cité du Vatican dans un sens strict. Mais alors ces lois sont étendues dans leur valeur à toutes les institutions qui dépendent du Saint-Siège, aussi s'ils ne sont pas physiquement présents dans l'État de la Cité du Vatican, mais qui dépendent du Saint-Siège comme juridiction. Alors, c'est le motu proprio, c'est pour dire que les lois que nous faisons dans ce champ sont valides pour toutes les institutions qui dépendent effectivement du Saint-Siège. C'est un instrument juridique, c'est pourquoi on utilise pas seulement les lois de la Cité du Vatican, mais aussi le motu proprio pour dire ces mêmes lois sont valides pour toutes les institutions qui dépendent de nous.
Le père Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, interrogé par Thomas Chabol. Le pape argentin a donc entrepris une grande réforme des structures du gouvernement central de l'Église. Plusieurs commissions ont été instituées pour faire des propositions. Le 11 juillet, dans un autre motu proprio, il avait décidé une vaste réforme du code pénal du Vatican qui durcit les sanctions pour tout acte de pédophilie, de corruption ou de blanchiment d'argent. Cette réforme s'applique à la curie, à l'ensemble du personnel diplomatique et aux salariés d'organismes liés au Saint-Siège, qu'ils se trouvent ou non sur le territoire du Vatican. Et aux États-Unis, une victime sexuelle d'un prêtre qui poursuivait le Vatican devant les tribunaux américains pour sa supposée responsabilité dans le scandale des prêtres pédophiles a retiré sa plainte en appel. Le plaignant, originaire de l'Oregon, avait déjà été débouté par une cour fédérale qui avait estimé que le Vatican ne pouvait être considéré comme l'employeur direct d'un prêtre présumé pédophile envoyé dans l'Oregon par son ordre religieux dans les années 60 après plusieurs scandales sexuels en Irlande et à Chicago. La victime avait conclu en début d'année un accord d'indemnisation avec les servites de Marie, l'ordre mendiant auquel appartenait l'agresseur, et réclamait également une indemnisation du Vatican. Le chapitre général des Dominicains s'est achevé ce jeudi en Croatie, un chapitre d'autant plus important que l'Ordre des Prêcheurs se prépare à célébrer en 2016 le 8e centenaire de sa fondation. L'occasion donc de définir les axes de la nouvelle évangélisation à l'heure de la culture numérique et des nouvelles technologies. Les travaux avaient commencé le 22 juillet dans l'antique cité de Trogir avec une centaine de participants. Parmi les thèmes abordés, l'annonce de l'évangile, la prédication aux plus pauvres, l'implication des jeunes laïque et l'urgence d'adapter les lignes d'action aux nouveaux contextes mondiaux. Le 8e centenaire de la fondation de l'ordre dominicain s'annonce comme un véritable retour aux sources et se veut moins une commémoration qu'une projection enthousiaste vers le futur de son charisme. Écoutez le maître général de l'ordre des prêcheurs, le frère Bruno Cadoré.
Un jubilé, c'est une occasion pour nous de rendre grâce à Dieu d'abord, pour sa bonté, sa fidélité, sa confiance aussi. Rendre grâce à nos frères qui nous ont transmis cette tradition magnifique. Rendre grâce pour notre histoire, mais c'est aussi l'occasion de, comme tous les retours aux sources dans les ordres religieux, c'est l'occasion d'une lecture humble de nos réalités et d'une lecture humble de notre histoire. Donc comment aussi tenir compte des beaux côtés, des mauvais côtés de notre histoire, mais comment en tirer des enseignements, si vous voulez. Et humble, parce que c'est une fois de plus l'occasion, un jubilé, de se rendre compte qu'on reçoit une vocation, on est envoyé, on n'a pas de mérite nous-mêmes à faire ce que nous faisons. Donc c'est retourner boire à sa propre source, et la source de l'ordre, c'est la miséricorde de Dieu. Ce retour aux sources, ça va nous donner l'occasion de demander à nouveau la fidélité créatrice au charisme de l'ordre, qui est de servir la prédication de l'Église. On va mesurer à nouveau à quel point nous sommes envoyés pour prêcher l'Évangile, la confiance que ça représente, l'exigence que ça représente aussi, et la nouveauté dans le monde d'aujourd'hui de cette mission.
Justement, le charisme de la prédication, c'est quelque chose de fondamental pour les Dominicains. Comment concilier ce charisme de prédication et les exigences très concrètes du monde actuel ?
Un peu comme toujours, quand il s'agit de prêcher, il faut d'abord écouter. En tout cas, c'est ça qui nous apparaît dans le chapitre. Il faut se donner les moyens d'écouter le monde, oui, d'écouter les appels du monde, les quêtes de vérité, les quêtes d'authenticité, les quêtes de bonheur, finalement, dans ce monde. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voudrions réussir à nous donner quelques lignes principales, si vous voulez, d'attention dans ce monde. Comment écouter le monde et apprendre à le comprendre à partir de ces trois points de vue. Donner de la voix à ceux qui sont les plus vulnérables. Donner de la place à la compréhension des beaux côtés et des côtés plus risqués de la sécularisation d'aujourd'hui. Et donner de la place et donner de l'importance et de l'attention aux quêtes de reconnaissance. Pourquoi ? Parce que revenir à nos sources, c'est redécouvrir qu'un des signes importants que nous sommes appelés à donner ou à chercher à donner à l'école de Saint-Dominique, c'est le signe de la communion.
Permettez-moi juste de revenir sur ce que vous disiez auparavant. Vous parliez de la nécessité d'écouter, d'être attentif aux communautés délaissées, à ceux qui sont en quête de reconnaissance. Est-ce que vous pouvez juste spécifier, détailler et me donner quelques exemples ?
Oui, dans certains lieux où les frères et les sœurs travaillent, dans la famille dominicaine, certains peuples indigènes sont trop marginalisés. Certains groupes sociaux dans le monde contemporain sont trop marginalisés. Dans le monde contemporain occidental du Nord, par exemple, certains groupes n'ont pas le même accès à la culture, le même accès à l'éducation, le même accès à la parole. Les populations migrantes, qui sont un phénomène général dans le monde, n'ont pas toujours l'accueil qu'elles méritent, l'accueil auquel elles ont droit. De quelle façon faire place à cela ? De quelle façon faire place aussi, dans certaines populations, à ceux qui sont moins actifs ? Vous voyez, dans le monde, il y a des gens qui, pour diverses raisons, finissent par être moins actifs. Or, dans un monde où l'activité, la productivité est importante, ces groupes-là risquent d'être plus négligés, plus oubliés. Il me semble aussi que dans certains mondes culturels, il y a lieu de donner de l'importance à la voix des femmes. Il y a lieu de donner de l'importance à l'espérance des jeunes dans la construction d'un monde nouveau. Donc, toutes ces voix diverses, qui ont des valences différentes selon les cultures, méritent d'attirer l'attention de tous, quoi.
Le maître général des Dominicains, interrogé par Manuela à Fidji. J'ajoute que le chapitre de Trogir s'est achevé le 8 août, le jour de la fête de Saint-Dominique. Le prochain chapitre général aura lieu à Bologne, en Italie, durant l'été 2016. Dans le monde orthodoxe, plus d'un million de fidèles ont vénéré la croix de Saint-André à l'occasion des célébrations organisées pour le 1025e anniversaire du baptême du prince slave Vladimir le Grand, qui régnait à Kiev à la fin du premier millénaire. La relique a été exposée pendant 23 jours, du 11 juillet au 2 août, dans les trois pays concernés, la Russie, l'Ukraine et le Bélarus. Les églises sont restées ouvertes pendant la nuit pour permettre aux fidèles de défiler devant la relique, habituellement conservée en Grèce, où l'apôtre André a été crucifié. Le pape François a adressé un message de condoléances à l'archevêque de Rosario. Cette ville argentine, la troisième du pays, a été le théâtre mardi d'une explosion provoquée par une fuite de gaz qui a ravagé un ensemble de trois bâtiments dans un quartier résidentiel. Un immeuble de 9 étages s'est effondré et les 2 autres ont été considérablement endommagés par la déflagration. Des zones d'ombre subsistent quant aux responsabilités de la catastrophe. Le Saint-Père a tenu à exprimer sa proximité paternelle aux familles des victimes et aux blessés. Il prie le Seigneur d'accorder le repos éternel à tous ceux qui ont perdu la vie. Son message a été lu publiquement mercredi au cours de la procession et de la messe organisée pour la fête de Saint Gaëtan, le patron des travailleurs, très populaire en Argentine. Et toujours à propos de l'Argentine, le pape François a adressé ses salutations à tous les catholiques qui participeront le 8 septembre prochain à la collecte nationale lancée par l'épiscopat. Il invite ses compatriotes à faire preuve de solidarité à l'égard des personnes en difficulté et à s'identifier toujours plus au Christ. L'année dernière, cette collecte avait permis de récolter près de 3 millions de dollars, de quoi financer des projets au profit des plus pauvres. Plus de 3 ans et demi après le séisme qui avait ravagé Haïti, l'ONU et le gouvernement haïtien ont lancé mardi un appel d'urgence pour récolter 100 millions de dollars d'aide humanitaire. Malgré la mobilisation de la communauté internationale au lendemain du tremblement de terre, l'aide humanitaire peine à être véritablement efficace. De moins en moins d'ONG sont présentes en Haïti et la situation d'insécurité alimentaire s'aggrave. Violaine Dory est responsable du programme Haïti au Secours catholique Caritas France.
De 2011 dénombrait 800 000 personnes en insécurité alimentaire. Et aujourd'hui, on est à 2 100 000 selon les chiffres de l'ONU, les chiffres d'une commission qui suit ça de près, qui s'appelle la Commission nationale pour la sécurité alimentaire. Elle a relevé que 92 des 140 communes du pays sont confrontées à l'insécurité alimentaire sévère. Et c'est, on va dire, une des conséquences des cyclones Sandy et Isaac qui ont eu lieu en 2012, mais aussi du tremblement de terre et de toute situation, un pays qui ne produit pas forcément assez pour nourrir sa population. Il y a aussi des questions de politique agricole et de politique commerciale avec l'extérieur. Beaucoup d'éléments qui expliquent cette situation.
Quand on parle d'insécurité alimentaire en Haïti, quelle réalité ça recouvre précisément ?
Ça recouvre aussi bien et de façon, on va dire, très très claire, des personnes qui vivent dans des camps sans avoir de moyens de s'acheter de la nourriture. Mais ça recouvre aussi des paysans qui ont finalement trop peu de moyens, trop peu de terres pour produire assez pour à la fois faire face à leurs besoins primaires et se nourrir, et qui vont vendre une production insuffisante et qui vont se retrouver dans des périodes de soudure en vraiment difficulté. Donc c'est le paradoxe de que ce soit les personnes qui produisent de la nourriture qui sont aussi touchées par la famine.
Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne. Le pape François a accepté depuis son retour de Rio une série de démissions d'évêques. Ce jeudi, il a accepté celle de l'évêque de Nice en France, Monseigneur Louis Sancalet, conformément au paragraphe 2 du canon 401. Monseigneur Sancalet, en effet, n'a pas atteint la limite d'âge puisqu'il n'a que 67 ans. La conférence des évêques de France a précisé qu'il démissionnait pour raison de santé de cette charge qu'il occupait depuis 2004. Né à Saint-Louis du Sénégal, Monseigneur Sancalet a étudié à HEC, à l'Université grégorienne de Rome, avant d'être ordonné prêtre pour l'archidiocèse de Marseille. Il a été entre autres aumônier de l'association Foi et Lumière, recteur de la basilique du Sacré-Cœur à Marseille et évêque de Cayenne. Monseigneur Guy Tomaso, archevêque émérite de Montpellier, est nommé administrateur apostolique pour gouverner le diocèse de Nice jusqu'à la prise de possession canonique du successeur de Monseigneur Sancalet. Le ramadan s'est achevé. Dans un message de vœux publié la semaine dernière, le pape François a appelé les chrétiens et les musulmans à abattre les barrières de la méfiance et du mépris en invitant au respect mutuel. Il exhorte les deux religions à éviter la critique injustifiée ou diffamatoire de l'autre et déplore les attaques contre les dignitaires religieux et les lieux de culte. C'est la première fois depuis 1991 que ce message annuel est signé par le pape lui-même. En Italie, l'Union des communautés et organisations musulmanes a tenu à remercier le Saint-Père dans un message en s'associant à son appel en faveur de l'éducation au respect. L'association entend poursuivre sur le chemin du dialogue et du partage éthique. Et à propos du dialogue islamo-chrétien, dans le cadre de nos rediffusions estivales, je vous propose de réécouter un entretien diffusé en septembre 2012 à l'occasion de la visite de Benoît XVI au Liban. Nous avions interrogé le père Agapios Fouri, prêtre gréco-melkite. Il coordonne le programme Adian, une initiative de dialogue avec l'islam qui rassemble des jeunes en atelier et organise des échanges entre collèges chrétiens et musulmans. Pour lui, le vivre ensemble existe bien au Liban. Le dialogue interreligieux est une réalité, même si certains ne veulent pas l'entendre et sont tentés par le repli identitaire.
Le Liban, il vit quelque chose de spécial dans son Moyen-Orient. Il est, comme le pape Jean-Paul II a dit, il est message de paix et de coexistence, de fraternité. Il est message d'amour. Et ici, au Liban, on sait très bien vivre malgré la guerre civile qui a duré peut-être une trentaine d'années. On est un peuple qui aime vivre ensemble et on a toujours vécu ensemble. Et on a plusieurs personnes qui sont tellement ouvertes d'esprit, ouvertes de cœur, ouvertes de foi et qui aiment rencontrer l'autre. Il y a plusieurs fondations ici au Liban qui travaillent dans ce sens. Toujours on trouve des personnes contre ce travail, des personnes qui n'ont pas encore pu dépasser la guerre, qui n'ont pas encore, qui ne peuvent pas encore accepter l'autre, qui croient que si j'accepte l'autre, c'est-à-dire je nie ma foi et tout ça. Et il y a des gens qui sont tellement bornés, peut-être, qui n'acceptent pas, ils ne peuvent pas accepter. Mais ça a toujours existé et ça va exister pour toujours, Yanné. Tu ne peux pas changer tout le monde.
Quand on a peur, on ne dialogue pas, on se replie sur soi-même. Il y a souvent beaucoup de tentations de se replier sur soi-même au Moyen-Orient. Quel message vous faites passer face à ce repli, justement ?
Lorsque je me replie sur soi-même, c'est parce que, à mon avis, je ne suis pas tout à fait rassuré dans ma foi. Si je suis une personne croyante qui est assurée, je suis une personne ouverte. Si je ne peux pas m'ouvrir sur les autres, c'est-à-dire que moi-même, j'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup de doutes et je ne suis pas tout à fait croyant. Et j'ai peur. J'ai peur des idées des autres parce qu'ils vont me perturber, ils vont me changer mon opinion, ma croyance et je serai perdu. Alors, je prends cette décision, je m'enferme, je me relie sur moi-même et c'est fini. Et comme ça, je vis dans la tranquillité.
Réalisé par Olivier Bonnel, l'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. J'ajoute à propos du Liban que les évêques maronites attribuent aux deux camps politiques adverses la responsabilité de la paralysie institutionnelle actuelle. Au cours de sa réunion mensuelle, le Conseil des évêques a déploré les divisions verticales extrêmes de la classe politique qui entravent toute entente et placent l'État dans l'incapacité d'assumer ses obligations les plus élémentaires. C'est la fin de notre émission, mais vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous lire à tout moment sur notre site internet www.radiovaticana.va. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter et sur nos applications. Merci de nous avoir écoutés.